baby loves a flat, get it. And a rollin' and a doin' the bop, only two on the floor, and we was mighty hot. I grabbed her by the arm and she started to spin. She said, baby, let's do it. A flat get it, let's flat get it, If you wanna rock instead of sit, well, come on, baby, let's flat get it.
Summer vibes, yeah. Ain't gonna lie. A one, two, three, four.
Le manche disque. L'émission qui tourne. À 33 tours minutes.
Salut à vous les mangeurs de disques. Bien content de vous retrouver pour cette émission numéro 2 du Manche Disque en direct du studio de Radio G 101.5 FM. C'est parti. Salut à tous.
Good morning freedom.
Good morning, c'est un peu tard pour dire good morning.
C'est un peu
bon.
Tard, bientôt ça pourra l'être.
C'était rigolo cette petite transition là pour notre premier direct avec la voix d'Olivier d'Intoxica juste avant.
En guest.
Et ouais, on est en train de se roder là, on essaie de se passer le matos et tout, de faire la petite transition tranquille, c'était rigolo pour une première.
Alors là, on vient de s'écouter Good Morning Freedom
de Priscilla. Et oui, un morceau de ta sélection, Julien.
Effectivement, un album... qui date de 1970, l'album Gypsy Queen. Alors Priscilla, bon, dans l'état civil, Priscilla Coolidge, une native du Tennessee en 1941, la sœur de Rita Coolidge, la fameuse. En fait, Priscilla a eu une carrière express. Elle a été mariée à Booker T, qui a produit son premier album solo Gypsy Queen, donc en 1970. Suivront trois collaborations, puis un dernier LP en 1979, année de leur divorce. Ensuite, Priscilla va plus sortir grand-chose, en tout cas à ma connaissance. Et elle connaîtra même un destin tragique, malheureusement, puisqu'elle sera tuée par son troisième mari qui se suicide ensuite le 2 octobre 2014.
Bah dis donc ça, voilà. C'est bien glauque tout ça là.
C'est bien glauque, mais il nous reste quand même ce superbe album Gypsy Queen qui vaut vraiment le coup, avec une très belle pochette qu'on ne peut pas vous montrer puisqu'on est à la radio, mais on pourra l'afficher sur notre page Facebook, Le Manche Disque.
Et oui. On vous en a pas parlé de notre page Facebook Le Manche Disque.
Non, on a une page Facebook dans laquelle il nous arrive d'essayer de compléter notre émission de radio par le biais de petites chroniques, d'échanges de disques, d'informations diverses, de photos de concerts, etc.
Ouais, donc n'hésitez pas à venir liker la page, ça vous permettra entre deux émissions du Manche Disque de venir réagir, de venir commenter en dessous du podcast, de venir liker, de venir nous proposer aussi vos questions éventuelles, les questions de collectionneurs, questions de matos auxquelles on tâchera de répondre pendant l'émission. On pourra même créer une petite rubrique questions des auditeurs, donc n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre. On doit être à peu près en une petite communauté là. Pas grande du tout, on doit être 280, quelque chose comme ça.
Ça se construit.
Autour de ça. Ça se construit petit à petit, rejoignez-nous. Le deuxième morceau, je crois, Julien, c'est aussi ta sélection.
C'est ça.
On change complètement de style.
Ah oui, on change complètement de style. Pas tant d'époque que ça, puisque je vais vous passer un morceau de Gato Barbieri. Gato Barbieri, c'est un saxophoniste argentin, né en 1932 et mort en 2016. On le connaît surtout depuis son passage au Festival de Jazz de Montreux, et également par sa contribution à la BO du Dernier Tango à Paris de Bertolucci en 1972. Je vous propose en fait là d'écouter la moitié d'un très long morceau qui est sur son album Chapter 4 Alive in New York, qui date de 1975. Le morceau s'appelle La China Leoncia et est originellement découpé en 4 parties. Moi je vous propose les parties 3 et 4 parce que sinon on n'aura pas le temps de passer à autre chose. Et vous allez voir, ça s'enchaîne et c'est très sympathique.
Bah effectivement, si c'est que la moitié, effectivement c'est déjà pas mal. Mais vous allez voir, on s'ennuie pas du tout. Gato Barbieri, petit moment jazzy dans le Manche Disque.
Yeah.
l'Argentin Gato Barbieri.
Sur Radio G 101.5.
Et sur le manche disque, bien sûr. Mais c'était bien sympa, ce petit jazz, latin jazz à la Barbieri.
Tout à fait.
Il est quelle heure là? Il est 23h20, il est un peu tard. Est-ce que ça te dirait, Julien, d'écouter une petite histoire?
Ah oui, avec grand plaisir.
Alors cette histoire, elle se passe en 1968. Berry Gordy, le patron de la Motown, entend parler d'une bande de gamins qui commence à faire parler d'eux. Et il se trouve que la Motown, c'est le label par excellence des musiciens afro-américains à grand succès. Avec la Stax, bien sûr, mais c'est une autre philosophie. L'entourage de Berry Gordy se dit que ces gosses ont peut-être quelque chose. Et au vu de l'engouement populaire naissant autour d'eux, il vaut mieux tendre une oreille et surtout ne pas risquer de les voir signer ailleurs. Une audition de ces jeunes artistes prometteurs est alors organisée à Détroit, même si de son côté et en tant que décideur principal, Berry Gordy a de sérieux doutes sur ce projet. Ok, c'est bien mignon de voir des enfants faire de la musique comme des grands, mais combien de temps avant que le public ne se lasse? Et franchement, un gamin de 11 ans, chanteur, frontman de ce groupe, qui chante du blues, de la soul, qui nous parle d'amour, de solitude, de désir, alors qu'il ne connaît rien à la vie? Qui va croire à ça et surtout, combien de temps? Autre argument et pas des moindres. À leur âge, impossible de prédire l'évolution, ni physique, mais surtout vocale, de ces gamins prépubères. D'ailleurs, Berry Gordy prit part à autre chose le jour de cette audition, il ne va même pas faire le déplacement. Il demandera à ce qu'on la filme et la regardera plus tard chez lui. Ce qu'il fait. Heureusement. Car il ne le sait pas encore, mais ce jour est un moment clé. Un moment clé pour lui, pour le groupe, pour la Motown bien sûr, mais surtout pour des millions de personnes qui auront la chance de profiter du fruit de cette rencontre majeure dans l'histoire de la musique. Il se trouve, Julien, chers auditeurs, que ces gamins s'appellent, et vous l'aurez sans doute deviné, les Jackson 5. Entre autres standards de la soul et du rhythm and blues, ils ont décidé d'interpréter une reprise de Who's Loving You, des Miracles. Les Miracles, c'est un groupe emmené par Smokey Robinson. Et ce morceau, il date de 1960. Tu vois ce que ça fait, ce morceau, Julien?
Ouais.
On va l'écouter un petit peu.
When
Très soul. Ce morceau, Berry Gordy, il le connaît très très bien puisque c'est lui-même qui l'a produit à l'époque, en 1960, à l'époque où la Motown s'appelle encore Tamla. Et c'est sans doute à ce moment précis que l'audition bascule. Déjà impressionné par le jeu de jambes du petit Michael, sa façon de chanter cette chanson d'adulte lui fera penser « C'est un homme de 30 ans dans un corps d'enfant ». Berry Gordy décroche son téléphone, appelle son adjoint, à qui il dira « Ces gosses sont incroyables ». Signalez tout de suite. Allez, Jackson 5. Ah, Michael Jackson. Ah, c'est des bons souvenirs tout ça. Ce disque-là, puisqu'on parle quand même de vinyle, il faut que je vous parle aussi un petit peu de l'objet. Il est issu peut-être du seul best-of que j'ai dans ma collection. Le seul best-of, il concerne les Jackson 5. Il s'appelle The Jackson 5 Greatest Hits. Il est sorti chez Tamla Motown, j'en ai parlé tout à l'heure, en 1984. Ça me fait aussi penser à un sacré concert qui a eu cet été à Trélazé, où j'étais, un concert des Jackson, justement, sans Michael, bien sûr, qui est mort, sans Jermaine, qui était malade, bon... je ne vais pas m'étendre plus loin sur le sujet, c'est un concert qui a fait beaucoup de débats parce qu'il a été ce qu'il a été, mais en tout cas ça a été l'occasion d'une bonne dose de nostalgie. Et en parlant de concert, Julien, l'artiste qui suit, c'est aussi un morceau de ma sélection et on l'a vu en concert il n'y a pas longtemps, toi et moi.
On a eu la chance effectivement de le voir en concert dans un festival mal loin.
Pas très très loin, non, effectivement.
Oui, mais surtout mal loin.
Mal loin, oui, ah oui, mal loin et pas loin, oui, exactement. C'est vrai, j'avais mal entendu. Et plus vieux aussi, hein, on faut le dire aussi.
Oui,
hein,
plus vieux, surtout les deux derniers jours, effectivement.
Bonne sauce sur la tronche, mais on était contents quand même.
Ouais, la route du rock, voilà, très belle édition, hein. On a découvert des groupes dont on aura l'occasion de vous reparler, hein, bientôt.
Ouais, bon, celui-là, il n'y a pas vraiment besoin, c'était la tête d'affiche principale, donc c'est pas la découverte du siècle pour vous, mais c'est un artiste qui m'est cher, c'est un groupe qui m'est cher, c'est Tame Impala. À chaque fois, on a tendance à dire c'est un mec qui s'appelle Tame Impala, mais non, le leader de Tame Impala, c'est Kevin Parker, qui, au-delà d'avoir aussi fait remonter la côte du prénom Kevin, qui n'était pas vraiment au top en ce moment, a aussi fait un très très bon travail musical avec son groupe Tame Impala, les Australiens, un travail musical innovant, à la fois innovant et aussi aux influences rétro du rock psyché des années 70. Donc ils ont fait 3 albums, moi j'ai les 3. Le dernier album, Currents, il fait un peu plus débat dans la sphère Tame Impala parce qu'il est beaucoup plus pop et électro que les deux précédents, très très orientés rock psyché. Donc voilà, il a perdu une partie de ses fans, il en a gagné beaucoup beaucoup d'autres, hein. Oui. Currents, je pense que c'est un album qui a fait beaucoup d'argent parce qu'il a été plein de titres ont été repris dans plein de génériques de pubs, etc. Et puis du coup il a popularisé Tame Impala à travers le monde. Bon, les puristes voilà se sont un petit peu scindés. Moi j'ai fait la transition, je l'ai un peu suivi dans son délire Kevin Parker. Je pense que il conserve sa patte, sa chirurgie, sa rythmique chirurgicale et ses mélodies qui font mouche à chaque fois. Bon, pour ce soir, je vais faire plaisir du coup aux puristes qui nous écoutent, puisque j'ai choisi un morceau du tout premier album Inner Speaker, sorti en 2010 chez Modular Recording. Un morceau qui s'appelle Desire Be, Desire Go, avec plein de fuzz à l'intérieur qui crépite à fond. Donc vous allez vous apercevoir que c'est bien, bien, bien psyché. Du fait de cette fuzz, je vous déconseille, premier conseil audiophile de l'émission, je vous déconseille de vous en servir comme morceau de calibrage de votre installation, parce que sinon vous allez devenir complètement cinglé. Vous allez vite comprendre pourquoi. We'll be right back. L'Australien Kevin Parker et son groupe Tame Impala, Desire Be, Desire Go. Vous êtes bien sur Radio G, 101.5 FM, dans l'émission Le Manche Disque, l'émission de la culture vinyle. Et en parlant de culture vinyle, Julien, je crois que tu nous as préparé une petite chronique sur, tenez-vous bien, des séries télévisées consacrées aux disques vinyle.
Effectivement, là j'ai envie de vous parler ce soir de deux séries en particulier qui évoquent l'univers du disque vinyle. Eh bien d'abord, Vinyl l'a bien nommé, ça ne s'invente pas.
Au moins c'est clair.
Vinyl, c'est un pilote de 112 minutes et 9 épisodes de 60 minutes. C'est une série créée par Martin Scorsese et Mick Jagger notamment, donc ça fait une sacrée caution.
Beau monde.
Pour ce show, c'est produit par HBO, donc voilà, c'est quand même un gage de qualité.
Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre HBO, ceux qui font Game of Thrones ou pas?
Notamment. Donc dans Vinyl, on a Bobby Cannavale, Olivia Wilde, Juno Temple et James Jagger, l'illustre fils de l'illustre chanteur. Et on y suit les aventures de Richie Finestra, qui est un producteur quadragénaire qui tente de faire revivre son label dans le New York de la fin des années 70. Dans ce cadre-là, il va aller à la recherche de nouveaux artistes et de nouveaux styles en s'entourant d'une équipe jeune et dans l'air du temps. Alors que les Ramones jouent au CBGB et que le punk déboule dans le game. Alors, c'est plein de bons morceaux. La reconstitution de l'époque est superbe. HBO oblige, hein, y a les moyens. Il y a plein d'apparitions de stars de l'époque interprétées par des acteurs, évidemment. Notamment David Bowie qui fait une courte apparition interprétée par un acteur. Alors, malheureusement, les vicissitudes de American Century Records, la boîte de notre personnage principal, ne vont pas répondre aux attentes de HBO et il n'y aura qu'une seule saison. Dommage, on ne saura d'ailleurs pas ce qui advient du label, ni des Nasty Beats, ce groupe punk qui était le nouveau poulain de Finestra. Néanmoins, ça vaut quand même le coup d'œil. Pour son côté sexe, drogue and rock'n'roll, son New York crasseux, ses clubs punk, ses basses manœuvres entre différents producteurs. C'est dispo sur OCS. La deuxième série s'appelle 45 Tours, 45 Revoluciones, plus précisément, puisque ça vient d'Espagne. C'est sur Netflix qu'on peut visionner la première saison de 45 Tours qui est sortie cette année, alors que Vinyl a 2-3 ans, j'ai oublié de préciser. Cette fois, c'est 10-15 ans plus tôt, on est en 1962, on est en pleine Espagne franquiste. Guillermo Rojas, un ancien producteur, tout comme son homologue new-yorkais Finestra, trouve son épiphanie dans un concert quand Robert, un jeune homme, s'incruste sur scène pour essayer d'entonner une petite chanson avant d'être viré puis jeté en garde à vue par la police. Rojas va payer sa caution et l'enrôler dans son label Futura, qu'il va ensuite créer et diriger chez Golden, une grande maison de disques tenue par son ex-ami. Ex-ami pourquoi ? Parce qu'il lui a piqué sa femme et son fils. Rojas, là encore, s'entoure de jeunes fous de rock'n'roll et aura fort à faire pour lever les obstacles sur sa route, entre une nouvelle fois les basses manœuvres des studios adverses, les caprices de stars et la dictature franquiste qui s'incruste, notamment sur les derniers épisodes. Là encore, belle reconstitution, jeu d'acteurs soignés, avec Guillaume Puerta, Ioan Marcos et Carlos Cueva qui sont au casting. La BO mélange des morceaux très rock du début des années 60 et réserve quelques surprises avec des standards plus modernes réinterprétés à la sauce de l'époque. Bref, ces deux séries ont une même trame, du moins au départ, des personnages assez semblables, mais permettent pour chacune d'entre elles de découvrir l'envers du décor du marché de nos galettes préférées à différentes époques et en différents lieux.
Donc des séries qu'on peut retrouver sur...
Alors OCS pour la première et Netflix pour la seconde, effectivement.
Ben, si vous ne savez pas quoi faire de vos soirées et que vous adorez la culture vinyle, si vous adorez la culture vinyle, forcément vous nous écoutez.
Oui,
eh bien,
j'espère.
Voici deux séries à regarder.
Please Never Die de Tess Parks et Anton Newcomb sur l'album Tess Parks et Anton Newcomb.
Ça s'entend bien l'influence Anton Newcomb.
Exactement. Ouais. En fait, I Declare Nothing et trois ans après Tess Parks et Anton Newcomb sont les deux superbes albums de la canadienne Tess Parks qui viennent nous rappeler que Newcomb, le leader du Brian Johnstone Massacre, sait produire de splendides collaborations quand il s'en donne la peine. Avec ce Please Never Die, titre présent sur le deuxième album enregistré à Berlin, ville d'adoption d'Anton Newcomb et sorti en 2018, on s'en rend effectivement compte dès les premières notes. Avant cette collaboration, Tess Parks avait déjà sorti un album un peu moins connu, Blood Hot, en 2013. Puis, donc, les deux collaborations avec Newcomb. Le prochain album la verra-t-elle à nouveau collaborer avec Newcomb, ou ce dernier est-il désormais trop occupé avec son projet L'Épée ? À suivre.
Une autre collaboration dans un tout autre style.
Exactement.
Nous avons eu l'occasion d'écouter à Lévitation.
Oui, dont nous passerons peut-être pudiquement sur cette nouvelle collaboration, en tout cas le temps de digérer un petit peu l'expérience.
Ah, on va beaucoup d'auditeurs vont pas être d'accord avec nous, mais on n'a pas été fan.
Non, on n'a pas été fan.
On peut se dire ça, on n'a pas été fan, ce cher Anton. Bon, eh bien, à mon tour maintenant d'enchaîner avec un autre morceau, un morceau qui est une petite curiosité qui, à mon avis, vous n'avez pas encore entendu, hein, parce que je suis allé très très loin, je vous raconte un petit peu mes vacances, mais il se trouve que cet été, je suis allé fouiller les bacs au fin fond de l'Europe de l'Est, en Bulgarie. J'y suis allé avec une question en tête d'ailleurs. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer dans un pays communiste durant les années folles du psychédélisme à l'Ouest, c'est-à-dire les années 60-70 ? Voilà. J'ai eu cette petite question qui me taraudait et je me suis dit, allons voir dans les bacs à vinyle si je ne peux pas trouver un petit morceau d'histoire. Et donc j'ai déniché une petite pépite, il me semble, une compile sortie en 1972 qui s'appelle « The Best of the Beat Groups of Sofia », Sofia étant la capitale de la Bulgarie. Cette compilation, elle regroupe les meilleurs titres de trois groupes d'époque représentant un petit peu le rock d'influence occidentale en Bulgarie. Alors, tiens-toi bien, je vais essayer de prononcer à la bulgare. Donc, le premier groupe, c'est Shturtsite, le deuxième, Glasovete, et le dernier, Srebernite Grivni. Voilà. Plus surprenant, cette compile est sortie sur le label national officiel bulgare, Balkanton. Et l'exemplaire que j'ai acheté a même le verso traduit en russe qui laisser imaginer qu'il était destiné à être distribué directement au cœur de l'URSS. Alors personnellement, moi je t'avoue, Julien, que j'ai été un peu surpris de trouver ce disque, parce que comme beaucoup, peut-être, je me faisais une représentation du communisme d'époque, très enclin à la censure de tout ce qui pouvait venir de l'Ouest, et surtout, a fortiori, je dirais, concernant un mouvement culturel de jeunes pacifistes aux cheveux longs, hein, et au mode de vie un peu alternatif. Ça me semblait pas coller comme ça au premier abord tout à fait au projet des communistes. Donc
tout à fait. On a vu dans la dernière émission avec le groupe Republika polonais, ouais, lui des années 80, qui avait dans les années 80, donc 20 ans après, encore des problèmes au niveau de la censure, au niveau du nom qu'ils avaient, au niveau des thèmes qu'ils abordaient. Donc
complètement. Alors est-ce que la Bulgarie c'était un petit peu plus permissif? Toujours est-il que ça sort sur le label officiel, le label national Balkanton. Donc un peu surprenant, mais comme quoi faut peut-être toujours un petit peu se méfier de des préjugés, hein, parce que tout n'est pas si simple a priori. Bon, après, il faut bien avouer que je me suis un petit peu penché sur la traduction des textes. On n'est pas non plus sur des messages ultra subversifs et des appels à la révolution culturelle. Hein. On est plutôt dans des trucs assez lisses, des reprises en fait de standards des Shadows ou des Beatles à la sauce bulgare avec des textes quand même assez gentillés. Et à l'image donc du groupe que j'ai choisi de vous passer aujourd'hui, donc Srebernite Grivni. Bien sûr, le plus dur à prononcer, tu me connais,
Julien,
c'est celui-là que j'ai choisi, qui lui a carrément fait le pari de chanter du folklore traditionnel bulgare, donc en ce qui concerne les textes, mais arrangé à la sauce rock psyché. Voilà. Donc, tu vas me dire, c'est pas très 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 subversif de choisir de piocher dans le folklore bulgare, mais on peut se poser la question artistico-philosophique, peut-on voir la subversivité dans cette démarche de rockifier l'héritage folklorique? Bon, ça c'est une question qui reste un petit peu ouverte, on va pas faire du manche-disque une émission trop intello, mais vous pouvez tenter une réponse
sur la page
Facebook. Alors voilà, pour illustrer ça, donc je vous ai choisi un morceau de ce groupe qui s'appelle, alors, Pustono Ludo Imlado, littéralement liberté, fou et jeune, tout un programme. Et comme vous vous en rendrez compte, le son est absolument dégueulasse. Je vous préviens, ce son est absolument dégueulasse. C'est aussi ça, la culture vinyle, c'est aussi tomber sur des pressages dégueux. Alors, est-ce que c'est le pressage? Est-ce que c'est l'enregistrement à l'époque? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est pas très 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 joli à entendre. On a l'impression que l'ingé son, il règle le gain en plein morceau. Mais ça fait le charme, me semble-t-il, de cette curiosité psychédélique bulgare. Et voilà pour le rock psyché bulgare. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est une curiosité. Il est l'heure de se dire au revoir, hein, Julien.
Et oui, ça passe vite.
Voilà, l'heure du direct a touché à sa fin, puisque nous allons enchaîner maintenant avec une interview. C'est un petit peu la tradition. On vous a expliqué la dernière fois du Manche Disque, une interview que j'ai eu le plaisir de mener avec Dahlia qui est la gérante du paradis pour diggers de vinyle et amateurs de bière, Exit Music for a Drink. Elle est fort sympathique, Dahlia, et c'est une interview fort intéressante que je vais vous passer maintenant. Je vous dis donc au revoir.
Oui, on se dit au revoir. On se retrouve dans 15 jours sur Radio G 101.5, 23h à minuit.
Même heure, même lieu. Au revoir, au revoir.
Même condition.
Salut Nicolas.
Donc on est ici à Exit Music for a Drink, ta boutique, qui est un petit coin de paradis, puisque c'est quelque part où on peut boire un coup entre amis, écouter du bon son qui passe régulièrement. Et en plus de ça, tu as des bacs remplis de vinyle et de CD, je crois, un petit peu de CD aussi. Donc voilà, je te laisse présenter un petit peu plus en avant cette boutique et puis toi-même.
Ok. Donc je suis Dahlia, je tiens Exit Music depuis presque 5 ans maintenant. Donc à la base, c'est parti d'une passion que beaucoup de gens partagent. Voilà, donc j'ai été disquaire pendant quelques années dans des grosses firmes que je combats à l'heure d'aujourd'hui. J'y trouvais pas ma place, je pouvais pas faire ce que je voulais, et puis en plus j'écrasais les petits, donc ça me déplaisait fortement. Donc je me suis lancée dans la création de la boîte il y a approximativement 9 ans maintenant. L'idée d'avoir une boutique, d'essayer d'en faire quelque chose d'un peu plus moderne que les petites boutiques des années 90 qu'on trouvait, où il y avait, voilà, les petits trucs un petit peu poussiéreux, les petits voilà, faire un petit endroit chaleureux dans lequel on peut boire des coups, dans lequel on peut se sentir comme à la maison. Ça me paraissait assez évident.
Et c'est bien réussi, ouais, je te confirme. Incontournable de tous les amateurs de musique et tous les diggers, comme on dit. Donc maintenant, on va rentrer dans la partie de l'interview un petit peu plus perso, avec les questions rituelles de l'interview du Manche Disque. Donc je vais commencer par te poser la première question sur le revival du disque vinyle, puisque bah, t'es bien placé pour le savoir. Tu vends des disques vinyles dans les années 2000.
Ouais.
Comment tu t'expliques que les personnes se retournent vers ce support musical aujourd'hui ?
Je pense vraiment que la raison principale pour moi, c'est l'affect. C'est un mode de consommation qui change. Une prise de conscience de toute une génération, de consommer autrement. Et donc, acheter un support fait que voilà, tu l'as dans ta bibliothèque, c'est pas un truc que tu as dans ton iPod qui fait 120 gigas. C'est, tu vas l'écouter, tu vas le prendre, tu vas regarder la pochette, tu vas t'installer, tu profites pleinement. Et c'est plus une expérience, finalement, qu'une écoute totalement passive.
Et à titre perso, est-ce que, là je vais te demander de fouiller un petit peu dans tes souvenirs, est-ce que tu peux nous raconter un premier souvenir, en tout cas, qui te vient d'écoute de disques vinyles ?
Quand j'étais toute petite, à l'époque de mes parents, je pense à des trucs, mais c'est pas super rock'n'roll, genre du Christian Morin, tout ça, en disque vinyle, mais c'était chouette.
Il
faut
bien commencer par quelque chose.
C'était des petits moments de partage, tout ça, j'ai fait de la clarinette après ça d'ailleurs. Du coup, oui, les parents, forcément, et puis après, c'est revenu 20 ans, presque 30 plus tard, où voilà, je me suis acheté mon premier disque vinyle. Et donc forcément, c'était Radiohead. Il y avait une reprise de Computer que je me suis acheté. Et donc moi, perso, c'est mon premier disque vinyle que j'ai acheté.
T'as anticipé sur la question suivante, qui était justement le premier disque que tu as acheté. Donc Radiohead, OK Computer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Je pense que tout le monde connaît à peu près l'histoire de cet album. OK Computer, gros monument de la culture pop en 97. Que dire de cet album, à part qu'il était avant-gardiste de fou, que cet album n'a pas pris une ride, que c'est sans doute mon disque préféré quand même. La boutique s'appelle un petit peu un hommage à un des morceaux de cet album.
Alors, est-ce que tu te définis, toi, comme une collectionneuse de musique, de disques ?
Pas vraiment, et c'est bien pour ça d'ailleurs, je pense que je ne fais que du neuf. Et j'attache une importance évidemment au support, par contre, ça va pas être déterminant pour moi qu'un album soit l'original ou pas, à partir du moment où c'est un bon repressage, à partir du moment où finalement je l'ai, et que le son est acceptable, ça me convient. Et d'ailleurs, j'ai pas une grosse collection. Ce que j'aime finalement, c'est en parler avec les gens, c'est apprendre des choses, c'est faire découvrir des choses. Et voilà. Mais en tout cas, en termes de si, je suis pas une collectionneuse. Je suis pas une collectionneuse hardcore de disques. Non.
Alors, Dalia, l'heure est venue de conclure l'émission avec un titre de ton choix.
Alors, un de mes gros coups de cœur du moment, bon, ça fait un petit moment que l'album est sorti, c'est un artiste allemand qui s'appelle Jungstötter, me semble-t-il, ou Jungstötter, comme vous voulez. Donc, il a sorti cet album, c'est un premier album, il est sorti chez Piass. Le morceau s'appelle Love Is, c'est un mélange de beaucoup de choses. C'est l'album, en général, est une sorte de... d'ambiance un petit peu typo nickévien entre cabaret, piano, ambiance lynchienne aussi par moment. Et voilà, donc vous entendrez sur ce morceau que ce petit monsieur Jungstötter a une voix qui pourrait aussi rappeler Mark Hollis de Talk Talk. Scott Walker aussi par moment, beaucoup de Nick Cave, un peu d'Anthony The Johnsons. Cet album est un pur chef-d'œuvre, je vous conseille fortement d'écouter ça.
Eh bien, on s'écoute ça tout de suite. Merci beaucoup, Dalia.
Merci, Nicolas.